Bonsoir, il est 18h, l'heure de votre émission « Une heure en Palestine », programmée chaque mercredi sur Radio Galère 88.4 et animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, pour votre replay mensuel, c'est Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité, qui anime l'émission, et je suis Vincent. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site www.assopalestine13.org. Merci à Sidi qui assure la technique. Des événements récents ont saturé l'info de ces derniers jours. Le kidnapping de Nicolas Maduro, président du Nicaragua, expédition qui a coûté la vie de 80 Vénézuéliens, l'affaire de la vente forcée du Groenland, exigée du Danemark par Donald Trump, et le week-end dernier, les manifestations en Iran qui ont fait plus de 500 morts à l'heure où je vous parle, dans cette république islamique qui a exécuté par pendaison en 2025 1500 personnes. Ces événements ont encore un peu plus invisibilisé la situation à Gaza et en Cisjordanie, où l'armée et les colons font la chasse à l'homme, aux femmes et aux enfants sur des terres palestiniennes illégalement occupées. Emmanuel Macron a bien entériné que, suite à la reconnaissance de septembre dernier, son rôle était terminé et peu lui chaud la suite. Dramatique vision court-termiste et marque de fabrique du personnage, plus soucieux de sa personne que des effets inopérants de ses décisions. Aujourd'hui, dans ce replay ex-revue de presse, nous vous présenterons trois interventions qui sont trois cris. Un cri d'Edgar Morin, sociologue et philosophe de la pensée complexe. Second cri, celui de Karine Huster, responsable des activités médicales à Médecins sans frontières, qui fait partie des 37 ONG auxquelles Netanyahou va interdire l'accès à Gaza sous prétexte que ces ONG ne communiquent pas, pour des raisons de sécurité, l'ensemble des identités et coordonnées de leurs partenaires. Une suspicion inventée et égale à celle des bombardements de tous les hôpitaux accusés dès novembre 2023 d'être des repères du Hamas, sans qu'une seule preuve ne soit produite par Israël, qui continue aujourd'hui à hurler à l'antisémitisme dès que son armée est empêchée de massacrer femmes et enfants palestiniens. Le troisième cri sera celui d'Olivia Zemmour, présidente de l'association Euro-Palestine. Ensuite, nous ferons une incursion qui prend en flagrant délit de mensonge Alix Bouyagué face à Manuel Bompard, qui ridiculise Madame Fake News. Son employeur, France Info, parle d'erreur, mais aucune sanction ne suivra. Comme rien n'avait suivi la honteuse émission Gaza Riviera de Julien Benedetto, toujours sur France Info, qui, suite aux déclarations de Trump, avait toute honte bu inviter un spécialiste du tourisme afin de savoir si ce projet de Riviera à Gaza était viable. L'heure de la carte de presse à point, style permis de conduire, a sans doute sonné. Enfin, gravement attaqué, pour ne pas dire démantelé, le droit international suivra un replay, reprendra une émission de France Culture du 30 décembre dernier, sous le titre « Le droit international peut-il survivre à la montée des guerres ?» À Gaza comme en Ukraine, les traités peuvent-ils tenir au rapport de force Nous entendrons Samantha Besson, professeure de droit au Collège de France et spécialiste du droit international public, et Guillaume Piketty, professeur d'histoire à Sciences Po, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. Nous allons entendre Edgar Morin, 104 ans, qui pousse un véritable cri d'indignation.
Le silence du monde, le silence des États-Unis protecteurs d'Israël, le silence des États arabes, le silence des États européens qui se prétendent défenseurs de la culture, de l'humanité et des droits de l'homme. Je pense que nous vivons une tragédie horrible. Je suis à la fois ahuri et indigné par le fait que ceux qui représentent les descendants d'un peuple qui a été persécuté pendant des siècles pour des raisons religieuses ou raciales, que les descendants de ce peuple qui sont aujourd'hui les décideurs de l'État d'Israël, que cela puisse non seulement coloniser tout un peuple, le chasser en partie de sa terre et vouloir le chasser pour de bon, mais en plus, après le massacre du 7 octobre, se sont livrés à un véritable carnage massif sur les populations de Gaza et continue sans arrêt, frappant évidemment civils, femmes et enfants. Et de voir le silence du monde, le silence des États-Unis protecteurs d'Israël, le silence des États arabes, le silence des États européens qui se prétendent défenseurs de la culture, de l'humanité et des droits de l'homme. Je pense que nous vivons une tragédie horrible parce que nous sommes aussi impuissants devant cette chose qui se déchaîne. Et au moins, moi je dis, témoigner, la seule chose qui reste, si on ne peut pas résister de façon concrète, résistons dans nos esprits, ne nous laissons pas duper, ne nous laissons pas oublier. Ayons le courage de regarder les choses en face et voyons tout ce que nous pouvons faire pour continuer à témoigner.
Merci infiniment. Merci.
Merci Edgar Morin. Nous écoutons maintenant Olivia Zemmour, présidente d'Europalestine, entretien accordé aux médias.
Si vous êtes le plus grand criminel au monde, mais que vous êtes juif, vous ne subirez pas ce que subissent les Palestiniens. La détention dans les prisons en Israël des Palestiniens est illégale. C'est la première chose. D'autre part, la torture, c'est non seulement pas nouveau en Israël, mais c'est le seul pays, à ma connaissance, au monde, à l'avoir légalisé. C'est-à-dire que, en 1999, Israël a fait une loi permettant d'exercer des pressions physiques modérées en cas de besoin pour la sécurité nationale, etc. On sait ce que ça veut dire. Donc, traduction, on a le droit de torturer. Si vous prenez un exemple récent qui a défrayé la chronique, celui de ce détenu palestinien qui a été torturé et violé par des soldats israéliens, défrayé la chronique non pas parce que ces pratiques immondes auraient été utilisées, mais parce que on se demande qui est coupable d'avoir fait fuiter la vidéo qui les montre en train de faire ces atrocités. Eh bien, ce gars-là, non seulement c'est pas un terroriste, il a été inculpé de rien, c'est un civil, zéro inculpation de la part d'Israël, et libéré récemment. Comment on appelle un Israélien qui tue 29 musulmans en prière à Hébron dans la mosquée Ibrahim pendant le Ramadan? Je veux dire, eux, c'est quoi? Et ces gens-là ne risquent rien. C'est-à-dire que ceux qui commettent ces actes-là, et on le voit en ce moment, des pogroms qui sont pas simplement le fait de colons, mais qui sont aussi avec les soldats de cette armée la plus morale du monde, n'est-ce pas? Eh bien, je veux dire qu'ils n'ont pas, il n'y a aucun châtiment prévu en ce qui les concerne, et le mot terrorisme n'est jamais utilisé. Oui. La discrimination, ça serait pas uniquement dans la peine de mort. Vous avez dit qu'ils visent avant tout les Palestiniens. Non, qu'ils ne visent que les Palestiniens, parce qu'il est dit que ça serait uniquement pour les crimes de nature nationaliste. Ouais. C'est comme ça que c'est dit. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez? C'est que c'est réservé, effectivement, aux Palestiniens.
Merci Olivia Zemmour. La parole à Karine Oester, responsable des activités médicales à MSF.
Que je n'ai jamais vu ce que j'ai vu là-bas. Je veux vous dire que je n'ai jamais vu d'hôpitaux avec autant de corps sans vie, autant de corps si atrocement mutilés, démembrés, brûlés. Je n'ai jamais vu autant d'enfants silencieux, hébétés, au milieu des hurlements qui déchirent. Autant de vieillards abasourdis, leurs regards perdus dans le carnage humain qui les entoure. Je veux vous dire n'avoir jamais vu une population affamée, non pas par manque de nourriture, mais par une interdiction cruelle et immorale de recevoir cette nourriture. Je revois encore, rentrant dans Gaza, les milliers de camions transportant nourriture et médicaments bloqués juste de l'autre côté du mur, si proche, mais si loin. Je veux vous dire que ce cessez-le-feu est un bluff. Il ne fait que raser Gaza de l'actualité. Il force les Gazaouis dans l'oubli. C'est de fait des violences meurtrières au quotidien. C'est plus de 350 civils tués par les forces israéliennes depuis sa mise en place le 10 octobre. J'y étais. J'ai vu cette jeune maman sur son lit d'hôpital qui tient ma main et me supplie de voir son bébé en urgence vitale absolue. Une jambe et un œil en moins. Sacrée manière de commencer la vie. Je veux vous dire que cette ligne jaune, cette ligne de démarcation du nord au sud, retranche les Gazaouis dans un ghetto de plus en plus restreint. Un jour, elle est ici, le lendemain, elle est là. Personne ne sait. Il y a quelques jours, les forces israéliennes ont tué deux frères de 8 et 11 ans qui allaient chercher du bois pour aider leur père invalide. Des suspects représentant une menace, ont-ils dit. Je veux vous dire aussi que j'ai perdu 15 collègues à Gaza depuis le 7 octobre. Mais pour moi, j'ai surtout perdu Aboud pendant ma dernière mission. Je l'appelais Aboud 5 étoiles parce que c'était une star. Pour lui, rien n'était impossible pour ses patients. Il avait réussi l'improbable. Récupérer une imprimante 3D au nord de Gaza, sous les bombardements, pour offrir à ses patients, surtout des enfants, des visages moins ravagés par les cicatrices de leurs brûlures. Il était leur espoir d'une vie meilleure. Les forces israéliennes en ont décidé autrement. Il est mort en attendant le bus qui devait les amener à l'hôpital. Je veux vous dire l'angoisse et le désespoir aujourd'hui encore présents pour cette population maintes fois déracinée, brinque-ballée, retranchée, dans des abris de fortune où on n'y mettrait même pas nos chiens. Et pour finir, je veux vous dire merci. Merci d'être là. Merci de continuer à vous opposer à l'oblitération systématique, immorale et illégale d'un peuple, juste parce qu'il est palestinien. Merci de défendre la cause d'un peuple opprimé, dépouillé et sans défense, abandonné par la plupart de nos leaders politiques. Merci de ne pas les oublier.
Merci Karine Oester. Nous écoutons maintenant Samantha Besson et Guillaume Piketty.
Bonjour Samantha Besson.
Bonjour.
Merci infiniment d'être sur France Culture ce matin. Vous êtes professeure au Collège de France, titulaire de la chaire de droit international des institutions. Et vous avez coécrit « Aux confins des lois » aux éditions Anacarsis. Je cite également votre leçon inaugurale au Collège de France, « Reconstruire l'ordre institutionnel international » prononcée en 2020. Peut-on encore parler d'ordre international, Samantha Besson ?
Bien, merci de me recevoir ce matin. Cette invitation me suscite chez moi quelque chose d'un peu doux amer, puisque d'un côté, c'est très bien de parler de droit international, on va en parler tout à l'heure et j'y reviendrai. Mais d'un autre côté, vous n'invitez pas pour une rétrospective ou un best-of 2025 un pénaliste ou une constitutionnaliste pour parler de toutes les fois que le droit constitutionnel français ou le droit pénal français a été violé durant l'année. Et pourtant, chaque jour, il y a des crimes odieux commis en France. Donc il y a quelque chose au sujet du droit international qui fait que très vite, on passe dans la presse, dans les médias, dans le grand public, à la conclusion selon laquelle le simple fait que la norme soit violée voudrait dire que cette norme n'existe plus. On considère que l'ineffectivité du droit vaut la mort de son autorité lorsqu'on parle de droit international, ce qui est un petit peu inquiétant. Alors, il y a des raisons positives à cela, mais il y a aussi des raisons négatives, et je commencerai peut-être par les raisons négatives. La première, c'est une forme de réalisme, selon lequel le droit international ne serait qu'un idéal, et chaque fois qu'il est violé, finalement, ben, c'est la réalité qui reprend le dessus. Et ce réalisme, on sait que c'est un réalisme entretenu beaucoup par des partis de droite. Et puis la deuxième raison de s'inquiéter, c'est que le sens selon lequel il n'y aurait plus d'ordre international du simple fait de Trump, et du simple fait que l'Europe est en mauvaise passe, c'est en fait le fruit d'une myopie occidentale. L'ordre international, il va mal depuis très longtemps pour le reste du monde. Et donc, quand on s'apitoie sur soi-même, alors tout à coup, il n'y a plus d'ordre international. Donc, le fait de conclure si vite, à la fin du droit international, du simple fait qu'il y ait quelques violations et un président particulièrement problématique aux États-Unis, est gênant. Mais il y a aussi des raisons de se réjouir, en fait, de cet intérêt pour le droit international. D'abord, vous m'invitez, ce qui est... je vous remercie encore une fois.
Merci à vous d'être là, Samantha Besson.
Mais surtout... une raison de se réjouir, qui est tout à fait positive, c'est que le public s'approprie le droit international. Tout à coup, ça devient le droit des gens, notre droit à tous. Et c'est vrai, c'est d'abord notre droit chez nous. Ça crée des droits et des obligations pour nous, vous et moi, directement en France. Et le fait qu'aujourd'hui, les gens réagissent dans la rue aux violations graves du droit international qui existent aujourd'hui, à Gaza, en lien avec le climat, en Somalie ou ailleurs, c'est une chose très très réjouissante parce que ça veut dire que les gens réagissent chez eux lorsque le droit international est violé. Et une deuxième raison de se réjouir aujourd'hui véritablement de cet intérêt pour le droit international, c'est que les juristes entrent sur la scène publique pour défendre le droit international. Ça veut dire qu'ils préparent activement ce qu'ils ont préparé à chaque grande crise du droit international, c'est-à-dire la suite. Il s'occupe d'identifier ce qu'il est important de retenir, de perpétuer et d'absolument protéger pour la suite. Et donc on en reparlera tout à l'heure, je crois.
À quoi elle ressemblera, cette suite ?
Alors cette suite, espérons qu'elle ressemble d'abord à quelque chose de multilatéral, quelque chose d'institutionnel et quelque chose de public. On sait que le droit, et pas seulement le droit international, est aujourd'hui en souffrance sur sa publicité, sa dimension publique, du fait d'une forte privatisation du droit. On sait qu'en général, les gens ont de la peine à faire la différence entre les normes juridiques et des normes techniques ou scientifiques ou simplement toutes sortes d'autres normes ou standards qu'ils rencontreraient. Donc de manière générale, le droit est en difficulté, l'état de droit est en difficulté. Mais le droit international est plus vulnérable parce qu'il est plus récent, il est plus universel, donc il doit réussir à être de manière minimale le même partout. Il ne comprend pas un souverain unique. Il n'y a pas d'institution publique unique, d'un peuple unique. C'est une multitude de souverains égaux qui ont tendance évidemment à se traiter comme des parties privées. Et on a tendance à considérer leurs relations comme des relations contractuelles.
For similar reasons, the United States will provide no support and recognition to the International Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction.
Je traduis Donald Trump. En 2018, les États-Unis n'apporteront aucun soutien ni aucune reconnaissance à la Cour pénale internationale. Pour les États-Unis, la CPI n'a aucune compétence, aucune légitimité, aucune autorité. La Cour pénale internationale revendique une compétence quasi universelle sur les citoyens de tous les pays, violant ainsi tous les principes de justice, d'équité et de procédure régulière. Nous ne céderons jamais la souveraineté des États-Unis à une bureaucratie mondiale non élue et non responsable. Vous vouliez nous faire remonter bien plus loin que 2018 et cette intervention du président américain, Samantha Besson, et on va avoir le temps d'en parler. Mais pour moi, c'est aussi l'actualité, ces sanctions de l'administration Trump contre des juges de la Cour pénale internationale. Il faut préciser que les États-Unis n'en font pas partie. Alors, vous semblez dire qu'en effet, le droit international a toujours été entaillé. C'est vrai que les périodes de paix sont rares, mais enfin quand même, que nous dit cette Cour pénale internationale sur le droit international actuel ?
Bon, il y a deux choses à dire. La première, c'est un peu le diagnostic. Qu'est-ce qui est en train de se passer et que nous disent ces sanctions? Et puis la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, sur le diagnostic, je dirais que le piège se referme. C'est un piège qui est en préparation depuis très longtemps. L'extraterritorialité des lois nationales, sans égard pour celle des autres États, c'est quelque chose qui se développe depuis fort longtemps. Et là, cette loi extraterritoriale américaine, bon, c'en est une parmi d'autres, et ça se prépare depuis très longtemps. La privatisation, donc le fait qu'aujourd'hui nous dépendions énormément, dans le cadre de la réalisation des tâches publiques de nos États et de nos institutions internationales, comme la Cour pénale internationale, du secteur privé, notamment dans le domaine numérique, doit vraiment nous interroger sur la souveraineté numérique. Donc c'est quelque chose de très important dont nous reparlerons peut-être, mais qui est en train d'être défait depuis très longtemps. Donc la privatisation, ça fait très longtemps que les internationalistes la voient arriver aussi. Donc le piège, si vous voulez, se referme, surtout les sanctions unilatérales adoptées par de nombreux États aujourd'hui en dehors du cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est tous azimuts d'ailleurs, c'est quelque chose contre lequel nous alertons, nous, les internationalistes, depuis fort longtemps. La rapporteuse spéciale sur les sanctions des Nations Unies fait tout ce qu'elle peut aussi depuis de nombreuses années pour alerter sur cette unilatéralisation des sanctions. Alors évidemment, quand c'est des sanctions contre la Russie et contre Poutine, ici, personne n'y trouve à redire. Mais lorsque tout à coup, ces sanctions se retournent contre nous, alors tout à coup, leur unilatéralité choque. Donc voilà ce qu'on peut dire déjà sur le diagnostic, en fait. C'est un piège qui est en train de se faire depuis fort longtemps et qui simplement se referme. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut d'abord, à mon avis, réagir sur le plan international. Si vous lisez le statut de Rome, vous voyez que les privilèges et immunités des juges doivent être garantis. Et cela couvre aussi, à mon avis, leur inviolabilité. Et on pourrait considérer que l'inviolabilité numérique d'un juge, c'est quelque chose qui est protégé fondamentalement par le droit international coutumier et par le statut de Rome. Et donc, les États parties au statut de Rome, qui se réunissent régulièrement dans l'Assemblée des États parties, pourraient réagir.
Statut de Rome, Samantha Besson, je vous interromps une minute, c'est ce qui fonde en 2002 la Cour pénale internationale.
Tout à fait. Donc c'est un statut qui est entré en vigueur en 2002 et qui fonde la Cour et qui comprend des moyens et des obligations de protection, et donc les États pourraient réagir. La deuxième chose qu'on pourrait tenter de faire, c'est de considérer que les Pays-Bas, puisque la Cour a son siège à La Haye, que les Pays-Bas ont des obligations de protection des droits de l'homme, des personnes comme les juges qui sont sous leur juridiction territoriale.
Ce qu'ils ne font pas vraiment aujourd'hui.
Ce qu'ils ne font pas, mais c'est une question difficile sur laquelle je ne veux pas entrer dans tête d'âne maintenant, mais c'est vrai qu'on peut considérer que les données d'un juge font partie de sa personnalité et donc de ses droits de l'homme. Et puis la troisième chose dont on parle beaucoup dans la presse et qui devrait, à mon avis, être activée, ce sont deux règlements européens. D'abord le règlement anti-blocage européen que l'Union européenne a adopté pour protéger ses entreprises contre ce type de sanctions extraterritoriales d'États tiers, comme les États-Unis. Mais surtout aussi le règlement anti-coercition, qui est un règlement plus récent que l'Union européenne a adopté, précisément pour protéger sa souveraineté et celle de ses États, dont celle de ses institutions internationales comme la justice pénale internationale, contre des sanctions d'États tiers et des sanctions économiques de ce type-là. Et la question, c'est pourquoi est-ce que les États membres et pourquoi l'Union européenne n'agit pas ? Mais les moyens juridiques sont là. Et la réponse à la question du pourquoi n'agissent-ils, ben, en fait, elle se trouve déjà dans la description que j'ai faite tout à l'heure du piège, c'est-à-dire le degré de tricotage privé-public aujourd'hui de tous nos services numériques, jusqu'à toucher aux fonctions les plus intimes, les plus importantes d'une cour internationale qui ne peut pas fonctionner sans programme informatique, qui ne peut pas fonctionner sans service de paiement, qui tous aujourd'hui dépendent d'une manière ou d'une autre d'entreprises américaines.
C'est une date historique, dit-on aujourd'hui à Washington. L'accord réalisé entre Moscou et Washington, le premier accord d'ailleurs en 4 ans, pour ne parler que des deux super grands, met un peu de baume au cœur des dirigeants américains. En raison du conflit vietnamien, en effet, les relations avec la Russie se sont progressivement détériorées et dans peu de domaines, arrive-t-on encore à s'entendre ou à se comprendre ?
Le 27 janvier 1967, les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni signent le traité sur l'espace. Et d'espace, vous en parlez, Samantha Besson, et j'aimerais rebondir sur cette notion de privatisation. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces entreprises qui occupent l'espace, on est dans le cadre du droit international ? Et j'aimerais que vous développiez aussi, si vous le pouvez, cette notion de privatisation, puisque vous dites, vous écrivez, je crois, on manque d'imagination pour inventer le droit international de demain.
C'est vrai, on manque d'imagination et c'est pour ça que je saluais tout à l'heure le fait que les juristes internationalistes aujourd'hui défendent le droit international et se rendent compte du besoin de le protéger contre la vulnérabilité particulière qu'il a, que j'ai décrite tout à l'heure, et contre le fait qu'il est aujourd'hui, c'est vrai, attaqué du fait de cette vulnérabilité probablement plus profondément que le droit interne, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit interne est aussi affecté. Et ce qui fait qu'il est affecté plus profondément, on peut le comprendre très bien, je pense, en revenant à cette phrase de Louis Henkin qui disait « Le droit international est respecté par la plupart des États, la plupart du temps, dans la plupart de ses normes. » Et aujourd'hui, on doit considérer malheureusement que la plupart des États, notamment les États les plus puissants, notamment 3 puissances nucléaires, et 3 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité ne respectent plus le droit international. La plupart du temps, non, évidemment non, ça n'est pas du tout la plupart du temps, puisque on peut considérer aujourd'hui que du fait des intercrises et du télescopage des crises, le droit international est violé très très fréquemment. Et puis les normes qui sont violées aujourd'hui sont parmi les plus importantes du droit international. L'intégrité territoriale, la souveraineté, l'égalité souveraine, l'autodétermination, l'interdiction du génocide, les droits de l'homme les plus fondamentaux. Et donc le bilan est très négatif. Alors pour revenir à l'espace, l'espace, pour moi, c'est aujourd'hui la représentation la plus parfaite de tous les mots que je viens de vous décrire. C'est-à-dire qu'on devrait se dire cet espace, notamment l'espace extra-atmosphérique, est vierge encore. Et vierge d'une présence humaine, en tout cas d'une présence active. Et donc nous pourrions en traiter, l'organiser, en tout cas l'aborder d'une manière totalement nouvelle. Et l'exact inverse se produit, c'est-à-dire qu'on est dans l'exacte continuité de tout ce qu'on a fait depuis le XVIIe siècle, c'est-à-dire un droit international qui est pétri de liberté de navigation, d'exploration, d'utilisation, d'exploitation, qui confond propriété et souveraineté, qui, pour revenir à votre question, confond public et privé. Dans la recherche, aujourd'hui, clairement, tous les chercheurs vous diront qu'un des grands problèmes pour eux, c'est la privatisation de la recherche. Eh bien, dans l'espace, c'est très clair. Mais aussi, la confusion entre les droits et les obligations des personnes publiques et des personnes privées, donc des États et des entreprises, est vraiment très importante. Donc aujourd'hui, oui, on manque d'imagination.
Est-ce que vous faites également le lien, Samantha Besson, avec la crise écologique que nous traversons ?
Oui, tout à fait. Puisque ce que je viens de vous décrire sur le manque d'imagination est encore moins pardonnable à l'heure où le droit international des 4 derniers siècles finalement s'est montré tout sauf capable de protéger l'environnement et notre écoumène. Et au contraire, c'est caractérisé par une forme d'extractivisme de tout instant. Et donc, à l'heure où nos ressources sont épuisées, on voudrait extraire ailleurs avec le même modèle juridique. C'est très décevant, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on s'en occupe. Et donc, il y a beaucoup d'internationalistes aujourd'hui, tant en droit international privé qu'en droit international public, qui essayent de penser ce droit international de l'espace extra-atmosphérique différemment. Maintenant, est-ce que, de manière réaliste, les États qui pèsent au sein du seul cadre multilatéral qui existe aujourd'hui pour encadrer l'exploitation et l'exploitation des ressources spatiales écoutent les internationalistes, difficile à dire. Mais ils écoutent les scientifiques, en tout cas. Et nous sommes aussi des scientifiques, et les scientifiques parlent avec les juristes, et donc je pense qu'il peut y avoir une certaine convergence de ce que j'appelle les forces fictives, aujourd'hui en droit.
En tout cas, nous, on vous écoute sur France Culture. Merci. Ce matin. Samantha Besson, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire de droit international des institutions au Collège de France. Et je cite votre livre « Aux confins des lois » aux éditions Anacharsis. Vous restez avec nous, on va continuer à parler du droit international et de la montée des guerres, mais également de la fin des guerres. C'est l'objet des recherches de l'historien Guillaume Piketty, qui sera avec nous à 8h20, juste après le journal.
Les matins de France Culture, Astrid de Villene.
Et on continue de s'interroger ce matin sur la force du droit international. Que peut-il face à la montée des guerres et aux relations transactionnelles? Avec vous, Samantha Besson, merci d'être restée. Vous êtes professeure au Collège de France, titulaire de la chaire de droit international au Collège de France sur les institutions. Et je cite cette leçon inaugurale, « Reconstruire l'ordre institutionnel international » prononcée en 2020, disponible en ligne. Et j'accueille Guillaume Piketty, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Culture. Vous êtes historien, professeur d'histoire à Sciences Po et directeur de l'ouvrage collectif « Sortir de la guerre, des guerres de religion aux conflits asymétriques » aux éditions du Passé Composé. Ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, Guillaume Piketty, et qui, je pense, peut nous aider à comprendre ce qui se joue à la fois à Gaza et en Ukraine autour de la notion de cessez-le-feu. On entend souvent que la paix serait très proche, un cessez-le-feu, puis une rupture de cessez-le-feu. Et vous nous dites bien qu'un cessez-le-feu ne signifie pas la fin de la guerre.
Ben non, un cessez-le-feu signifie le plus souvent un surcroît de violence. Des gens qui s'entretuent une bonne dernière fois, des gens qui ont perdu, qui ont envie de se venger, d'autres qui ont gagné et qui veulent se venger également. Ça peut signifier des mouvements de population très considérables. Et enfin, des atteintes aux infrastructures et aux environnements. Et donc tout ça ne signifie pas du tout la fin de la guerre. A fortiori, si les anciens belligérants ont du mal à déconstruire la figure de l'ennemi. Voilà, quand on s'est entretué soigneusement pendant plusieurs années, c'est difficile d'arrêter tout d'un coup.
Vous nous dites également, Guillaume Piketty, que ce qui est le plus dur, finalement, dans les guerres, c'est la fin de la guerre, puisqu'il faut démobiliser, comme démilitariser les esprits.
Oui, alors, c'est une notion qui a été mise en avant par l'historien John Horne, c'est la démobilisation culturelle. Avec quatre temps, dit-il, je le fais très vite, là, pour le premier temps, c'est de faire en sorte que le sacrifice qui a été consenti par la collectivité vaille la peine, et donc on va réformer, on va rénover. Le deuxième temps, c'est déconstruire cette figure de l'ennemi, voilà, décider qu'en face, c'est à nouveau un être humain, et non plus quelqu'un qu'il faut massacrer soigneusement. Le troisième temps, c'est reconstruire les communautés supranationales qui ont été mises à mal par le conflit. Et puis le dernier temps, qui concerne ma voisine d'en face, si je puis dire d'une certaine façon, c'est s'efforcer de faire en sorte que la paix gagne à l'avenir, et donc créer des institutions, créer des systèmes de droit qui vont permettre d'imposer cette paix en dépit de velléités de retour à la guerre, le cas échéant.
Samantha Besson.
Oui, merci de me passer la parole, en quelque sorte, par ce pont. Effectivement, pour nous, les juristes de droit international, pas de paix sans droit international, pas de paix sans justice. Stella Gervas a écrit un très beau livre qui s'appelait « Conquering Peace », donc « Conquérir la paix ». Je pense que c'est plus difficile de faire la paix que de faire la guerre. Et effectivement, créer des institutions, adopter du droit, faire répondre les personnes privées, par exemple les génocidaires et les États de la violation du droit international. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Et je pense, par exemple, que le plan de paix de Trump n'est pas du tout un plan de paix sur ce plan-là, puisque c'est un plan de paix qui se dispense du droit international.
Lequel? Celui sur l'Ukraine ou celui sur Gaza?
Le plan de paix sur Gaza. qui se dispense totalement du droit international, qui même s'assied sur le droit international, puisque c'est un plan de paix qui est contraire au droit international impératif, à ce qu'on appelle le jus cogens, puisqu'il est contraire au droit à l'autodétermination du peuple palestinien. On peut y revenir tout à l'heure, mais pour moi, je vous l'expliquerai si vous le souhaitez.
Allez-y, ça m'entame son note.
Clairement, c'est un plan de paix, vous le verrez, qui ne mentionne même pas le peuple palestinien avant la toute dernière phrase du plan, qui parle plutôt d'habitants qui peuvent aller et venir, et dont on se dispenserait volontiers si on suit ce plan de paix. Il parle même pas de territoire, il parle d'un espace. Alors que la Cour internationale de justice est très claire sur le fait que la Palestine, c'est un seul territoire, du Jourdain jusqu'à la Méditerranée, évidemment dans le respect des frontières de 67 de l'État d'Israël, mais il y a un territoire palestinien, et surtout c'est un plan de paix qui ne parle pas de l'autorité palestinienne, qui parle simplement d'une sorte de petite autorité techno, quasiment privatisée. On revient de nouveau à la privatisation dont on a parlé tout à l'heure. On s'abstient de faire référence à l'autorité palestinienne. Donc c'est vraiment pour moi un plan de paix qui viole le droit international impératif parce qu'il viole le droit à l'autodétermination du peuple palestinien qui a été rappelé de manière répétée par la Cour internationale de justice en 2014 et 2024. Et c'est très grave de voir ce plan de paix annexé à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'emprise de 3 membres du Conseil de sécurité aujourd'hui.
Vous ne les avez pas cités, je vais le faire si vous le voulez bien, la Chine, les États-Unis, la Russie. Guillaume Piketty, si on reste sur ce conflit de Gaza, mais j'aimerais bien sûr qu'on parle ensuite de l'Ukraine et de la Russie, puisque ça semble quand même bouger du côté de la Floride. Est-ce qu'on a déjà vu, dans un conflit, d'un point de vue historique, autant de juristes, justement, s'impliquer pour le définir, pour débattre, pour se mêler de ces affaires-là, comme Samantha Besson nous le faisait remarquer d'ailleurs en début d'émission?
Écoutez, je pense que c'est une des grandes nouveautés de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe, c'est-à-dire qu'il existe un droit international, qu'on est résolu à le voir appliqué le mieux possible ou le moins mal possible, ça dépend des circonstances, et d'où évidemment le fait que davantage de gens, toujours plus de gens, de spécialistes, se penchent sur la question avec ce prisme qui est tout à fait utile, mais qui, et c'est une des choses que le président américain oublie complètement, c'est bien gentil de faire un plan d'en haut, après il faut se poser la question de la façon dont le plan va s'appliquer au ras des individus, va rentrer dans les esprits, et alors là c'est infiniment plus compliqué, a fortiori si d'entrée on les oublie. Et donc c'est un plan très bien, mais qui s'inscrit dans une méconnaissance complète des esprits humains et de l'humain qui a subi la guerre, et qui montre la très très grande inculture du président américain et de ceux qui travaillent avec lui.
Le monde aujourd'hui se trouve en présence d'États qui peuvent devenir des criminels. Le monde, la conscience collective des hommes, demande que des sanctions soient éventuellement prises contre les États qui serait tenté d'imiter l'État national socialiste. Après cette guerre, sous la pression de la conscience universelle, un tribunal international a été créé. Il présente des imperfections, certes, mais il est la première pierre d'un édifice que l'humanité réclame et sans lequel la paix et la liberté des hommes seraient définitivement compromises.
On vient d'entendre Charles Dubost, délégué adjoint de la France au tribunal de Nuremberg. C'était le 27 septembre 1946, ici diffusé sur la RTF dans l'émission La Tribune de Paris. On prend souvent ce procès, cette date de 1946, pour dater le début de l'ordre international, de la justice internationale telle que nous la connaissons. Est-ce que Samantha Besson, Guillaume Piketty, vous partagez cela? Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire comme bilan depuis? Guillaume Piketty.
Oui, alors moi je partage volontiers cette idée, c'est-à-dire que c'est le moment durant lequel tout le monde se met d'accord pour décider que des normes internationales vont s'appliquer au niveau national. Mais tout ça est adossé à ce qu'a évoqué Charles Dubost, c'est-à-dire cette notion de conscience universelle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, compte tenu de ce qui s'est passé pendant les années de Seconde Guerre mondiale, des horreurs absolues et avec une ampleur absolument colossale, Les vainqueurs se mettent à peu près d'accord sur cette idée de conscience universelle, de ce qui doit en découler en termes de droit international. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? C'est un autre problème.
Samantha Besson.
Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice, mais la justice n'est pas une garantie de paix. Donc c'est une condition nécessaire, on pourrait dire, mais pas suffisante. Et ce qu'il ne faut pas oublier désormais, par exemple dans le cas de Gaza, mais pour l'Ukraine c'est évident pour tout le monde, et pour Gaza personne n'en parle, c'est de rendre justice pour ce qui s'est produit. Et rendre justice, c'est la Cour pénale internationale, évidemment, contre des criminels. Vous l'avez, c'est l'enjeu de cette citation et de ce que vous venez de dire. Mais il y a aussi la Cour internationale de justice. Et puis, ce qui est vraiment nouveau depuis 1945, dans le contexte actuel, c'est la justice pénale interne. Et ça, c'est sans précédent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment des États qui ont pris au sérieux leurs obligations en vertu du statut de Rome dont on parlait tout à l'heure, et du droit international coutumier ou de la Convention sur le génocide, et qui ont adopté du droit pénal qui leur permet de poursuivre sur le plan interne, en vertu de la compétence pénale universelle, tous ces criminels de guerre. Et donc, cette justice, aujourd'hui, je pense qu'elle a beaucoup plus de moyens, malgré les sanctions dont on parlait tout à l'heure, qu'on avait pensé qu'elle pourrait avoir au moment de Nuremberg. Et je vous donne un seul exemple. La Cour internationale de justice, aujourd'hui, sur le génocide, est saisie dans 4 affaires. Elle est saisie par des États qui sont très éloignés du lieu du génocide, qui agissent en vertu de la dimension erga omnes, donc dans l'intérêt de tous, de la protection contre le génocide. Elle est saisie contre des États qui ne sont pas seulement les États génocidaires, mais qui sont d'autres États qui seraient par exemple complices. Et elle est saisie durant le conflit armé, durant le génocide par exemple, et pas seulement après. Et donc on a une véritable transformation aujourd'hui des rapports entre guerre et paix, entre guerre et justice, sur le plan ou à l'intérieur, si vous voulez, du champ de bataille judiciaire lui-même. Alors la Cour internationale de justice, elle n'est pas grisée par ça. Elle se rend compte de ce qui se passe. Pour elle, c'est beaucoup de travail. Elle n'était pas vraiment faite pour tant de travail.
Elle est fondée en juin 1945.
Voilà, elle n'était pas faite pour faire tout cela, mais elle le fait, la tête haute. Et elle ne se laisse pas griser, puisque de manière régulière, dans ses avis et arrêts récents, et je vous invite à aller les regarder si vous souhaitez, elle termine en disant, voilà, nous avons un rôle à jouer pour la paix internationale, mais nous ne sommes pas les seuls. Et nous rappelons aux autres parties intégrantes de l'ordre institutionnel international, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, les organisations internationales comme l'Union européenne, par exemple, et les États membres, qu'ils doivent tous jouer leur rôle dans la mise en œuvre du droit et dans la mise en œuvre du droit pour la paix.
Guillaume Piketty, vous parlez dans ce livre « Sortir de la guerre des guerres de religion jusqu'au conflit asymétrique ». Aujourd'hui, quel conflit asymétrique peut-on prendre en exemple pour expliquer à quel point c'est peut-être encore plus difficile, ou en tout cas très difficile, de sortir des guerres ?
Celui dont nous parlions il y a quelques instants, c'est-à-dire Israël-Gaza, enfin Israël-Hamas à Gaza. Et vous savez, c'est atroce parce que on peut se dire que là, depuis le 7 octobre, a été accumulée une quantité de haine qui va animer beaucoup de gens pendant des générations. Et donc, je dirais que pour l'instant, c'est la victoire absolue de la haine et d'une haine vraisemblablement durable, compte tenu de ce qui a été infligé de part et d'autre. Parce que les choses ont vraiment été faites de façon, dans un sens d'abord et dans l'autre ensuite. Et dans quelles conditions là, justement, la déconstruction de la figure de l'ennemi sera possible, c'est une terrible question.
Samantha Besson, est-ce que le droit international doit prendre en compte aussi cette question de reconstruction mémorielle ? On parle souvent de la paix matérielle, politique, institutionnelle, mais la mémoire, comme vient de le rappeler Guillaume Piketty, c'est important également ?
Absolument, et j'irais même plus loin, c'est plus que la mémoire, c'est la responsabilité. Donc Wajdi Mouawad, dans un très beau texte en septembre, lorsqu'il a accompagné le président Macron à New York pour reconnaître la Palestine, disait comme il était difficile pour lui de travailler avec le verbe « finir » et de finir un texte dramatique. Et moi je lui répondrais que le droit international ne connaît pas le verbe « finir », puisque nous avons la chance, les internationalistes, de travailler avec une institution formidable qui s'appelle la responsabilité. Et la responsabilité en droit international, c'est ce qui maintient les obligations vivantes Donc même quand une obligation est violée, tellement violée, qu'elle est tellement ineffective, qu'elle n'existe plus, pour revenir à ce que je vous ai dit tout en début d'interview tout à l'heure, eh bien la responsabilité arrive. C'est-à-dire qu'elle nove, elle crée, elle maintient l'obligation vivante, et elle crée une nouvelle obligation qui est une obligation de responsabilité. Et donc la responsabilité, en fait, ça ne meurt jamais, quelque part. Et c'est pour ça qu'il faut absolument rendre justice aujourd'hui pour Gaza, pour l'Ukraine, et continuer à faire ce travail au sein des instances internationales, pénales ou non, et au sein des instances nationales.
À propos de ce qui se joue en Ukraine et en Russie autour du président américain, est-ce qu'on est dans un cadre juridique acceptable, classique, Samantha Besson?
Je vous en prie.
Allez-y, Thomas, Guillaume Piketty, pardonnez-moi, je vais y arriver.
Dans un cadre juridique, ça, je ne suis pas absolument compétent, mais en revanche, dans des modalités normales de négociation, à mon avis, très clairement, non. Vous avez un président américain qui prétend imposer des modalités de paix, un président ukrainien qui, bon gré mal gré, s'efforce de suivre, et un président russe qui s'en fiche complètement, et qui, dès que des avancées sont peu ou prou annoncées, va se dépêcher de bombarder ou de prétendre qu'on a essayé de l'attaquer. Je veux dire sa résidence, là, tout récemment. C'est totalement ridicule. C'est absolument ridicule.
Samantha Besson.
Pour revenir à l'objet de cet entretien à deux, je pense que c'est véritablement un galvaudage du mot « paix ». On vient d'expliquer, Guillaume et moi, toute la complexité de ce qui se cache derrière ce terme. Et ces plans de paix qui n'en sont pas, qui ne contiennent pas de droits, qui doivent tous avoir 20 points, sont vraiment particulièrement choquants. Et c'est une autre manière de galvauder la très belle idée de paix, une paix sans égalité. Et puis si vous lisez, enfin moi j'ai pas accès aux dernières versions, mais si la dernière version publique à laquelle j'ai eu accès du plan de paix, c'est un remake en un petit peu moins grave, mais quand même très grave, de ce qu'on voit dans le plan de paix de Gaza, c'est-à-dire les entreprises américaines qui mettent la main sur les ressources, le territoire, et on grève l'avenir du peuple ukrainien. Et donc, tout cela est très grave.
Les ressources ukrainiennes, vous vouliez dire.
Voilà,
Sommes-nous à un moment constitutionnel, institutionnel, international, comparable à celui de l'après-guerre? Est-ce qu'on est en train de refermer ce cycle? Est-ce que vous arrivez à voir, vous, l'historien Guillaume Piketty, où on est? Parce que c'est vrai que ces périodes de flou d'entre-deux, elles sont aussi très déstabilisantes pour nous qui regardons les notifications avec paix, cessez-le-feu. Et vous, comme vient de le dire Samantha Besson, peut-être que c'est le mot paix qu'il ne faut pas employer.
Alors, effectivement, je crois que une des différences fondamentales avec ce qui s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'à la fin donc de ce second conflit mondial, il y avait des vainqueurs absolus et des vaincus totaux. Bon, absolu également. Et évidemment, lorsque l'ennemi, en plus l'ennemi abject, est à terre, à ce point, le nazisme par exemple, imposer une paix, imposer des normes de droit international, n'est certes pas simple, mais est possible. Aujourd'hui, la notion de victoire, en particulier pour les deux conflits que nous avons considérés, est éminemment en suspens, on peut en débattre. Et dans ces conditions, oui, il est possible de saisir la Cour internationale de justice, et il est possible, il est même nécessaire de le faire. Il est évidemment nécessaire qu'elle travaille, qu'elle continue à travailler, mais comment faire en sorte que ce qui a été décidé, que les jugements rendus soient effectivement appliqués, entre guillemets, sur le terrain, c'est une autre paire de manches qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que justement, il n'y a pas de véritable vainqueur absolu.
Samantha Besson, vous qui êtes une spécialiste aussi des droits de l'homme, est-ce que ce sont eux aussi qui sont attaqués à travers ces entailles et que se passe-t-il pour eux dans les périodes comme ça de sortie de conflit, si on y est, bien sûr?
Bon, mais votre question plus large, elle était très, très bonne. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment qu'on appelle de critique ou de crise institutionnelle, et on sait que le droit international travaille les crises de l'intérieur. Je dis souvent que le droit international, c'est un peu la sage-femme que cherchait Gramsci quand il parlait du monde ancien et du monde nouveau qui n'arrive pas à arriver. Eh bien, le droit international, c'est un peu la sage-femme du nouveau monde, ou le recycleur, ou le recyclage. Et notre travail à nous, c'est d'assister, de préparer, de prévenir, d'identifier les institutions très importantes, comme par exemple les droits de l'homme, vous l'avez dit, l'autodétermination des peuples, l'égalité souveraine, ces institutions fondamentales que nous avons petit à petit, crise après crise, au fil du XXe siècle, parce que ça n'est pas la première crise et ça ne sera pas la dernière, que nous avons petit à petit peaufiné, sauvé, travaillé, amélioré. Et donc, nous sommes là. Et le projet de ma chaire au collège, c'est un projet d'assistance à la réforme institutionnelle internationale pour identifier d'abord d'où nous venons et comment nous pouvons accompagner au mieux cette mue institutionnelle nécessaire de l'ordre international.
La chaire de droit international des institutions au Collège de France est la leçon inaugurale qui est disponible en ligne.
I would now want to ask my representative to the conference to place in your hands the Rome Statutes of the International Criminal Court. May it serve mankind well in generations to come. Thank you.
Vous aurez peut-être reconnu Kofi Annan à Rome pour la création de la Cour pénale internationale. Le 18 juillet 1998, il demande à tous les représentants de remettre ce statut. C'est vrai que c'est ce qu'on disait avec vous au début, Samantha Besson, c'est-à-dire que les périodes comme ça de paix, de création, de nouvelles institutions sont finalement très rares sur le temps long historique. Guillaume Piketty.
Vous savez, j'ai eu la chance de, outre ce livre, de préfacer un volume qui est un verbatim des quatre dernières conférences diplomatiques de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont des conférences dans lesquelles les acteurs que l'on connaît bien, Roosevelt, Staline, Churchill, Truman et Attlee, inventent quelque chose. Et donc, tout est à faire, c'est extrêmement compliqué, mais tout est possible puisqu'on invente. Aujourd'hui, la très grande difficulté, c'est de réussir à adapter ces institutions fondamentales que vous évoquiez, qui sont absolument indispensables, mais qui existent. Et il faut les adapter face à des situations par essence mouvantes, et ça rend les choses extrêmement compliquées. Et je crois que c'est la très très grande différence entre la période qui nous occupe aujourd'hui, avec ces deux conflits notamment, mais on pourrait parler du Soudan hein, par exemple, très grande différence avec ce qui s'est passé dans les années 43, 44, 45, et les quelques années qui ont suivi le second conflit mondial. Mais ça ne rend pas l'entreprise nulle, au contraire, elle est encore plus importante.
On se demande simplement avec qui mettre autour de la table, Samantha Besson.
Je pense que ce qu'on a oublié peut-être dans la discussion aujourd'hui et dans votre question, c'est les autres. Et je vous parlais de la myopie occidentale au début de l'entretien. Finalement, la temporalité que vous nous décrivez, dans laquelle vous nous invitez à discuter, c'est notre temporalité. Mais il y en a d'autres. Et nous faisons monde avec toutes ces temporalités. Donc la polychronie du droit international aujourd'hui, elle est devant nous. C'est-à-dire, on l'a ignorée par le passé, et là, nous ne pouvons plus l'ignorer. Donc, ça rend les choses plus complexes, mais peut-être plus intéressantes, parce que les solutions proviennent souvent d'ailleurs. Et puis, on a oublié aussi le rythme de la planète. C'est-à-dire que notre écoumène, lui-même, il a un rythme, aujourd'hui, qu'on a peut-être choisi d'oublier par le passé, et qu'on ne peut plus oublier maintenant. Et voilà, donc je suis désolée de charger la barque.
Non, vous avez bien raison, Samantha Besson.
On parlait mon collègue Piketty, mais là, vraiment, nous sommes sur un radeau, sur une mer très houleuse.
Vous parlez donc de notre myopie occidentale. Eh bien, merci infiniment à tous les deux d'être venus ce matin sur France Culture pour répondre à cette question. Je ne sais pas si on a réussi à y répondre, mais on aura au moins essayé. Le droit international peut-il survivre à la montée des guerres ? Samantha Besson, professeure au Collège de France, titulaire de la chaîne de droit international des institutions au Collège de France, aux confins des lois, votre livre aux éditions Anacharsis et votre leçon inaugurale au Collège de France, reconstruire l'ordre institutionnel international en 2020. Qu'on peut trouver en ligne. Et merci à vous, Guillaume Piketty. Vous êtes historien, professeur d'histoire à Sciences Po, directeur de l'ouvrage collectif Sortir de la guerre, des guerres de religion aux conflits asymétriques, paru chez Passé, composé en 2025.
Merci à France Culture. Maintenant, un point sur Madame Fake News, Alix Bouillaguet, sur France Info, face à Manuel Bompard.
Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan « mondialiser l'intifada », en clair, faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas ?
Il y a trois fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux juifs partout dans le
comment
monde.
Comment vous traduisez ça, mondialiser l'intifada? Je veux bien votre définition.
Je vais corriger vos trois contre-informations avant de répondre à votre question.
Mais mondialiser
deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information.
Si, si, il l'a utilisé, pas récemment, je vous l'accorde.
On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Et il a dit, je ne suis pas là pour faire la police des mots. Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan.
Pardon, madame, de vous le dire,
mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc, personnellement, je n'ai pas non plus utilisé ce slogan. Par contre, je salue l'engagement de Zoran Mamdani contre le génocide en cours à Gaza. Et je dis d'ailleurs que ça lui a valu à peu près les mêmes procès que ceux que subit la France insoumise depuis des mois et des mois de manière particulièrement infecte et particulièrement inacceptable.
Donc ne Zoran pas condamner Mamdani, le 7 octobre
en il a évidemment condamné le 7 octobre. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes, parce que sinon vraiment...
Alors, une
après,
information exacte, il lève des fonds pour l'UNRWA, c'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas.
Madame,
ça c'est pas un problème
madame,
aussi
l'UNRWA. Oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Oui. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Donc, s'il vous plaît, et c'était une enquête qui était une enquête indépendante et internationale. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser?
Si
l'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Mais franchement, je crois que vous êtes vraiment trompé dans votre question.
Nous terminerons avec l'humoriste Hakim Omiri et son sketch intitulé « L'antisémitisme électoral ».
La riposte.
Radio Nova.
Ça va les musulmans? On vous dérange pas? On vous dérange pas avec votre antisémitisme? Si, c'est Nathalie Saint-Cricq. Elle a expliqué pourquoi la France insoumise était antisémite.
L'antisémitisme est chose sérieuse. Il existe dans le pays. D'accord? Ça existe.
Et la quête du vote musulman aussi.
La quête du vote musulman. C'est pas un Indiana Jones, hein. Ouais. Et là, vous faites les choquer parce que vous êtes des gauchiasses. Mais les musulmans, ils votent que par antisémitisme. D'ailleurs, dans les années 2000, c'est essentiellement les Arabes qui votaient pour Jean-Marie Le Pen. Renseignez-vous. À un moment, à part faire du diabolo et faire des teintures bleues, vous servez à quoi, les gauchos, là? Là, je pousse le bouchon pour faire la nataloche, quoi. Là, c'est clair, elle sous-entend que LFI serait antisémite pour plaire aux nuls, qui, eux, sont antisémites par essence. Même Alexis Corbière, qui était en face, il se dit non, elle a pas affirmé ça. Il demande confirmation.
Quel est le rapport? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman?
Ah oui?
Ah oui. Elle a pas hésité une seule seconde, hein. La question, elle est même pas terminée, elle a déjà répondu de manière raciste, quoi. Pour plaire à un musulman, faut être antisémite. Et logique, hein, le musulman, il veut pas des écoles pour ses enfants, il veut pas des hôpitaux, qu'on arrête de s'en prendre à une femme voilée, ou vivre en paix dans le pays. Non, lui, ce qu'il veut, c'est être antisémite, voilà. Si ça se voit, vous avez l'air des... Vous avez jamais vu dans les cités, les gens qui préfèrent, souvent, c'est Hitler, hein. Si, c'est pas Jules ou Dembélé, ils adorent Hitler, c'est incroyable. Moi, j'ai déjà vu des mecs dans des cités avec des croix gammées, hein. Oui, après, c'était des keufs, mais... Et ils étaient dans la cité. Ça compte. D'ailleurs, si tu veux draguer une femme voilée, il y a une technique imparable. Je vous la fais. Hé, hey, mademoiselle, hey, dis-moi, ton père, il serait pas antisémite? Voilà, fin de technique. C'est... Souvent, les musulmans, quand ils voient une meuf dans la rue, ils sont là. Po, regarde, ça se voit, elle aime grave être antisémite, elle. Hé, hey, mademoiselle, ça vous dirait d'aller voir la conférence d'Alain Soral avec moi? Est-ce que c'est pas cher, je pense? Non, mais voilà, moi, je fais des blagues. Ouais, elles sont faciles à écrire. Tu sais, j'essaye juste d'être assez con pour penser comme les gens qui disent des trucs sincères. Et j'invente même pas, hein. Elle pense tellement ce qu'elle affirme, Elle le répète une troisième fois.
Non, mais et les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur tienne des popons antisémites pour qu'ils...
Non, mais ça peut aider.
Ça peut aider. Ouais, on n'a rien à foutre, en fait. Tous les musulmans sont des antisémites. Elle dit ça, détendue du string. C'est Nathalie Saint-Cricq, hein, qui le dit, directrice de la rédaction nationale de France Télé. Après, on vient nous dire sur CNews que le service public, il est de gauche.
Au revoir et à bientôt pour un nouveau et un prochain replay.